Everywhere you go, everyone you know, on the road, in the club, everyone you know does.
It's impossible to stop when you start to feel it. Can't you believe it? That the whole world needs it.
Bonsoir, bienvenue dans le Cyclocast, l'épisode 11. Ce soir, je suis en compagnie de Grincheux.
Salut.
Et de Prokylus.
Salut, salut.
Et moi-même, je suis Mogor. Et donc, on va commencer tout de suite par les rétropédalages de news.
Alors, moi, j'ai pas de rétropédalage ce mois-ci.
Moi non plus.
Mais j'en ai. La dernière fois, j'avais parlé d'un airbag pour cycliste qui
oui,
se met
le,
autour
le casque,
du cou.
Le tour de cou airbag, on se souvient.
Voilà, et on se demandait le poids, donc j'ai fouillé. Moins de 700 grammes.
Ça, c'est du journalisme d'investigation.
700 grammes, c'est lourd quand même. Hein.
Ouais, c'est plus lourd qu'un casque, mais bon, on pouvait s'attendre à plus.
Mais bon, oui.
Avec une cartouche de poudre, tout ça, bon...
Mais bon, voilà, donc j'arrivais pas à savoir si c'était lourd, pas lourd. Ça me semblait un peu lourd.
Ça fait le double d'un casque.
Presque un kilo sur les cervicales. Ouais, mais là, c'est autour du cou plutôt.
C'est autour du cou, donc c'est les épaules qui portent.
C'est le collier.
Enfin, mais bon, oui. Ok, et ben très bien.
Merci.
Et le second rétropédalage, parce qu'on en a déjà parlé il y a...
C'est pas grave, on en a déjà parlé, donc c'est un rétropédalage.
Oui, et donc on en a déjà parlé. Il s'agit de la roue électrique qui se met sur le vélo pour rendre ton vélo électrique.
Oui,
ouais.
Copenhagen Wheel.
Exactement, la Copenhagen Wheel. En pré-vente sur superpedestrian.com à 949 $ ou livres d'ailleurs, je sais pas.
Je ne sais pas.
Environ 1000 euros. En fait, j'ai pas de news spéciale, c'est juste que j'en ai entendu parler de plus en plus partout. Voilà, donc ça touche.
Je vais ressortir aussi maintenant que tu le dis, ouais.
Voilà, c'est tout. Ça touche de plus
et
en plus.
Dans un, ça fera l'objet d'une autre news, mais dans un petit aperçu que j'ai eu de l'émission Dynamo, qui est en train de se, dont le pilote est en cours de réalisation, ils en parlent également.
Donc voilà, donc ça devient populaire, ça devient.
Moi, on me l'a envoyé sur Facebook. C'est des amis qui m'ont envoyé, qui m'ont dit tiens regarde.
Oui, alors c'est ça aussi, c'est que souvent les potes sont regarde, j'ai trouvé un truc de vélo. Je suis déjà au courant, mais merci.
Merci.
Au final, généralement, on le dit plus pour pas les vexer, les pauvres.
Oui, cela dit, moi-même, hein, ça m'arrive d'envoyer des news sur un sujet à des gens qui sont experts.
Voilà, c'est ça.
Je fais la même chose. C'est tout pour moi pour les rétropédalages.
Eh bien, on va passer aux news alors.
Et c'est parti pour les news.
Grincheux.
Alors, je vais commencer par une première news et vous parler d'une jardinière à vélo. Alors non, il ne s'agit pas de faire pousser des vélos sur le rebord de sa fenêtre, mais plutôt de combiner une jardinière dans la cour avec un point d'attache pour vélo. Donc en gros, c'est une jardinière taille XXL avec des anses qui font point d'attache. Donc elle est remplie de terre, ils annoncent un poids de 75 kg, ce qui permet de limiter les risques de se faire piquer et la jardinière et le vélo.
Ça vaut mieux quand même, c'est l'objectif.
Mais bon, il y a sur internet, rapidement, les gens commencent à étudier comment fixer le truc en plus au sol.
Bah
parce
oui,
que c'est...
non mais 75 kilos, je veux dire, tu viens avec ta bagnole, tu cherches ça dans ta bagnole, c'est... 75 kilos,
c'est vite.
C'est voilà. Un humain pas très gras, pas très grand, pas très
voilà.
Gros. Hein.
À deux baraques, ça se soulève.
Ouais, mais il faut quand même deux gars pour voler une jardinière plus un vélo, quoi.
Oui, voilà.
Et tous les vélos attachés, s'il y en a plusieurs.
Voire deux, trois ou quatre vélos, même.
Voilà.
Génial, bonne idée, tu nous diras où elles sont implantées afin que nous nous fournissions en vélo.
Eh les gars, il y a
donc,
un titane dans la cour.
Ah. C'est ça. En plus, alors, c'est ça, si c'est des carbones, parfait.
Ah,
c'est léger.
Oui.
Je rêve ou Mogor vient de commencer à parler de tirer un carbone pour rouler sur du carbone, là.
Ouais, non, je...
C'est parce que j'ai reçu mon nouveau magazine de sang, alors ça me monte à la tête, tu sais, le carbone.
Voilà. Pour terminer, donc esthétiquement, bah, l'idée est séduisante. Après, 150 euros la jardinière, quand même. Donc, il faut voir comment rentrer le tout dans le budget.
C'est plus cher qu'une jardinière normale ?
Ouais, j'arrive pas à savoir. Parce qu'une grosse jardinière tu la mets dans la cour ou devant chez toi, c'est quand même
c'est plus cher qu'un,
en béton et tout.
C'est plus cher qu'un arceau à vélo, en tout cas.
Ah oui.
D'accord.
Et c'est un matériau urbain à destination des collectivités ou bien c'est pour les particuliers ?
Je pense que c'est principalement à destination des entreprises et des collectivités.
Oh là, il faut savoir que là, Prokylus bouge la table de mixage.
Oui, on a des problèmes de longueur de câble de casque.
C'est ce qu'elle
a dit que c'était pas la longueur qui comptait.
Ouais, il y a des fois quand même. Là, c'est toi que ça gêne, hein.
Ouais.
Bref.
Ok, bon, sur ces
considérations,
on enchaîne les news.
Allons-y.
Une fois n'est pas coutume, j'ai une news que je viens d'ajouter aujourd'hui à mon tas de news. Du coup, j'ai pas bien investigué dessus. Il s'agit d'une roue à suspension et non pas à rayon. Et ouais. Alors, c'est pas ultra nouveau. Mais l'article que j'ai lu était daté du 9 avril.
Donc c'est tout frais.
Et donc c'était plutôt frais. Il s'agit donc d'une roue qui s'appelle Loop Wheels. Et c'est un type qui, en regardant une femme avec sa poussette prendre un trottoir et renverser la poussette, qui s'est dit « mais ça serait pas mal d'avoir des suspensions qui permettraient de passer mieux les obstacles ».
Il y avait déjà des moyeux à suspension qui existaient pour les Brompton.
Alors, je connais pas les moyeux des Brompton, hein, donc je sais pas trop si c'est mieux ou pas. Donc il a eu un London Design Museum's Design of the Year Award.
C'est la roue, au lieu d'avoir des rayons, t'as des anneaux à l'intérieur.
Ouais, ça ressemble à un espèce de triskel, en fait, trois anneaux. Et alors, la petite dédicace que je dois faire à Prokylus, désolé de révéler ainsi ta vie privée, mais c'est que le type qui a développé ça, Sam Pierce, a en fait...
C'est un anagramme de Prokylus ?
Non, pas du tout, mais il a développé ça avec des archers.
Ah.
Parce que l'article, je vais citer l'article que j'ai lu, je mettrai le lien. Un bon arc doit avoir les mêmes facultés qu'une bonne roue. Il doit être incroyablement fort, mais aussi capable d'accueillir toute la flexibilité du mouvement humain.
Oui, tout à fait. Mmh. Ouais, voilà. Ouais. Oui, c'est pas faux. Effectivement, on cherche les mêmes.
Donc, il a une équipe d'archers de. Donc voilà, équipe d'archers. Et du coup, c'est des roues qui sont proposées aux cyclistes. Alors, c'est 2000$ la roue, mais aussi au fauteuil roulant.
Ah, ça, c'est pas mal, ouais.
Et là, du coup, pour des gens qui sont tous les jours assis dans leur fauteuil roulant, avoir un peu de suspension,
ça permet d'avoir un peu de confort.
Ça doit être appréciable.
Ouais. Donc, oui, bon, pour
faut
le dire.
Des sous, mais...
Pour le dire, les gens qui me connaissent le savent, je suis archer. Donc, voilà.
Voilà, alors j'ose pas tourner l'ordinateur pour vous montrer
je regarderai après.
L'apparence de l'intérieur de la roue, mais voilà, ça change des rayons.
Alors, news suivante, je vais vous parler donc des vélos en libre-service de Copenhague. Alors, en fait, ça aurait pu être un peu un rétropédalage, puisque je vous en ai déjà parlé, quand ils ont lancé leur nouveau système de VLS, avec les vélos qui étaient les plus novateurs du monde, avec assistance électrique, tablette avec GPS, les infos touristiques,
etc. Hyper high-tech.
Donc, très beau système, mais sauf que ça marche pas.
Ce qui marche pas, c'est les VLS ou le nouveau ?
C'est le nouveau système en particulier dont je vais parler. Mais je crois que le VLS à Copenhague ne marche pas dans sa globalité. Alors le site Copenhagenize a tenté de décortiquer le pourquoi. Alors je vous en ai fait une version très courte. Alors tout d'abord, il y a le coût. Il faut savoir que ces vélos coûtent $3000. Alors attention, $3000, c'est le coût de fabrication brut du vélo. L'estimation du coût global sur 8 ans est de $10000.
C'est pas énorme comparé aux frais qu'on peut avoir pour l'entretien et la réparation, par exemple, des vélos Valion.
Des vélos ou des vélos.
Oui, ça paraît pas excessif.
Mais
3000 de la fabrication, si y a les trucs hyper high-tech,
ça c'est dans les normes.
C'est le prix des vélos haut de gamme.
C'est dans les normes.
C'est pas énorme, mais c'est quand même un budget.
Oui.
Et le tarif de 5€ de l'heure pour l'utilisation. Alors, hors abonnement,
oui,
mais à 5€ de l'heure pour l'amortissement,
c'est
pourtant
dur.
Tu roules vachement plus vite avec ton VAE, donc du coup, tu le loues qu'une demi-heure, quoi.
Voilà, l'amortissement est assez difficile, et puis surtout, il y a une erreur sur la cible parce que je pense que
il y a une cible qui est peinte sur le côté, et puis comme ils l'ont
encore un truc d'archer,
et puis en fait, du coup, les mecs tirent, mais ils louent leur cible. Alors, du coup, les mecs s'écartent.
Je vouais.
Moi aussi.
En fait, je pense que la ville de Copenhague, quand ils ont développé ce vélo, se sont dit, on va essayer de toucher les habitants qui n'utilisent pas de vélo régulièrement. Sauf que...
Il n'y en a pas.
Il y a 50%.
Les locaux gardent une image associée au tourisme, parce que le premier système de VLS de Copenhague date de 1995 et était totalement orienté utilisation touristique. C'est comme ça qu'il a été perçu et vécu à Copenhague.
J'aurais tendance à dire que leur cible, elle est un peu réduite, puisqu'il y a que...
C'est quand même un des pays et une des villes où le cyclisme urbain est le plus développé.
Voilà.
Donc je pense que la majorité des habitants de Copenhague
possèdent leur propre vélo.
Et donc pour eux qui devaient être la cible, ce nouveau VLS est toujours pour les touristes et donc ils n'adhèrent pas. Et donc là, j'ai pas noté les chiffres, mais la fréquentation d'utilisation est en chute libre. Les premiers mois au lancement, ils n'ont pas atteint les objectifs prévus et ça n'a depuis été que en, en chute au niveau des abonnements. Donc il y a peut-être aussi des problèmes techniques sur les vélos qui ont fait que les abonnements n'ont pas été reconduits, je ne sais pas.
Je ne sais pas si il y a un truc qui ne fonctionne pas, si la carte GPS n'est pas à jour, je ne sais pas quoi.
Et puis un produit comme ça, si au lancement il n'est pas au point, ça, c'est tu vas garder une image pourrie tout le reste de...
Ouais, en même temps, plus tu mets de technologie, plus tu as un risque que quelque chose...
Tout à fait.
Comment dire ?
Tout à fait.
Lâche, ouais.
Lâche, mm-hmm. par rapport à un vélo entièrement mécanique.
Un bête vélo sec.
Un bête vélo. C'est toi le bête vélo, oui.
Un bête vélib où t'as...
Oui, quelque chose où il y a surtout de la mécanique.
T'as de la mécanique qui a été pensée pour être costaud, éprouvé et avoir des frais d'entretien réduits. Voilà.
Non, je pouffe parce que j'ai quand même vu un vélove se couper en deux devant moi, quand même.
Oui, oui, non, évidemment.
Eh oui.
Bah, quand tu vois ce que certains... Non, je ne parle pas de top 4.
Non, lui, il est soigneux.
Même sur une seule roue, il est soigneux.
Ouais.
Une petite dédicace à vos potes, ça va ?
Ouais, c'est ça. Bisous.
Pour compléter ma roue à suspension de tout à l'heure, j'ai trouvé, grâce au site Elles font du vélo, un guidon anti-vibration. Eh oui, le BAM City. Donc l'idée, c'est que c'est donc un guidon, un cintre, qui... bon, alors déjà, c'est pas encore en vente, c'est encore en crowdfunding. Mais l'idée, c'est qu'il il est flexible et rigide. C'est un peu compliqué à expliquer, mais il a une certaine flexibilité quand on appuie, et par contre, il a une limite de rigidité quand on tire. Donc, quand tu tires, ça permet de, entre guillemets, sauter une bosse ou tirer pour avancer, on va dire. Et quand tu appuies dessus, c'est plutôt le côté quand t'es sur des obstacles, des pavés, des creux, des rigoles, etc.
D'accord.
Voilà l'idée. Et donc, du coup, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'entretien particulier. Le tarif prévu, c'est 60€. Donc, vous qui achetez souvent des pièces,
c'est pas excessif.
Si c'est dans les... Voilà, si c'est dans les prix...
Il y a beaucoup plus cher.
Bien sûr, mais
en
bon.
En cintre.
Et donc l'idée, c'est vraiment orienté cycliste urbain.
Il a quelle forme, ce cintre ?
Et c'est un cintre droit. Ah. Il n'est pas course ni rien, un cintre droit. Et donc je vais citer quand même le nom des deux inventeurs, François Mermoux et Nicolas Senev, j'espère que je prononce bien. Donc l'idée, c'est que c'est un cintre droit de base qui ressemble pas à quelque chose d'exceptionnel, ce qui est peut-être bien aussi pour pas attirer la convoitise, même si c'est pas hyper onéreux. Mm-hmm. Et c'est dans le cintre qu'il y a toute la technologie innovante, on va dire. Voilà.
D'accord.
Je vous mettrai le lien, bien sûr.
Mm-hmm. Ok, bah merci.
Moi, j'en ai une petite au passage concernant... D'accord. Une petite news.
Très intéressant.
Une petite news. Grincheux.
Ah, excuse. Excuse Grincheux. Il a gardé une âme.
On rigole de rien.
Ouais, toi au moins, t'as juste souri. Grincheux, il est en train de pouffer comme un dingue derrière son micro. Donc, j'ai une petite news au passage qui est un petit peu plus local. Le 1er avril, le collectif Valve, qui est le collectif du sud-est de l'agglomération lyonnaise, a fait une nouvelle action pour demander un aménagement au niveau du pont de la Mulatière. J'y étais, donc voilà, en fait, on a, pour le 1er avril, on a sorti des brouettes, des pelles, des casques, puis on s'est amusé à faire mine de construire une nouvelle piste cyclable sur le pont. Ça a eu beaucoup de succès.
Avec force banderole, j'ai vu ça.
Ouais, bah, la banderole disait on commence les travaux GG. Voilà, pour Gérard Collomb.
Ça a attiré du public, les gens se sont arrêtés. Comment ça s'est passé?
Et vous invitiez les automobilistes à contacter le Grand Lyon pour savoir si on était des travaux.
Je me demande si on n'a pas fait péter le standard du Grand Lyon, parce qu'effectivement, si tu veux, ce qui se passe, c'est que oui, on ramotait du monde parce que comme on était au feu rouge, on s'arrêtait puis on distribuait des tracts aux gens. C'est la première fois que j'ai des automobilistes qui me disent non, mais on commence à vous connaître. C'était très très drôle. Et on leur disait, il faut bien appeler parce qu'il faudrait. Moi je leur disais, il faut envoyer une bonne équipe parce que l'équipe qui est actuelle, vous regardez, elle est pas terrible. Et donc, du coup, a priori, il y a eu pas mal d'appels, surtout quand on leur dit, ouais, c'est pour le poisson d'avril. Et là, les mecs, les automobilistes ont un méchant sourire, ils se disent, ah, elle est bien bonne.
Elle est bien bonne, faire une piste cyclable. Quelle blague déjà, incroyable.
Je pense que le standard qui a littéralement explosé rue du lac, ça a dû être une bonne blague pour.
Mais du coup,
pour le Grand Lyon aussi.
Du coup, ils prennent au sérieux cette histoire de faire une piste ou pas?
Ah oui, ils le prennent au sérieux, oui. c'est pour maintenir la pression en fait.
Parce que déjà l'année dernière, ils avaient annoncé la création d'un péage au niveau du pont de la Mulatière, il me semble, non ?
Ah, ça avait rué dans les brancards, ouais. Ouais, comme quoi on allait créer un péage au niveau du pont de la Mulatière.
Ah, oui,
pour,
oui, c'est vrai.
Les automobilistes étaient comme des dingues. Je te raconte même pas.
T'imagines que eux non plus n'ont pas super le choix de passer ailleurs.
Ben oui, bien sûr.
C'est quand même un axe privilégié pour cet accès, quoi.
Et en fait, Donc ça a eu en fait pourquoi cette action là, puis sachant qu'on nous l'a promis, le gros souci c'est qu'il y a eu des réductions de budget et puis il y a les PPI, alors les concrètement la budgétisation des projets prioritaires quoi. Et qui va se faire. Et en fait, Colomb va devoir décider avec la métropole des projets qu'on va conserver, des projets qu'on va reporter au calendrier grec parce qu'on n'a pas le pognon pour les faire. Et l'objectif, c'était d'éviter qu'on nous fasse une passerelle, que la passerelle passe à l'as, quoi. Voilà. Et a priori, ça a marché, à mon avis. Il pourra difficilement faire.
J'espère. Même si pour le moment, j'ai pas emprunté ça de manière régulière.
Oui, mais ouais.
On sait jamais le jour où j'ai envie d'aller par là.
Ouais, vous verrez, c'est. C'est pas du luxe.
J'y suis passé quelques fois, ça se fait. Mais bon, si on peut éviter, c'est toujours mieux.
C'est pas plus mal, parce qu'effectivement, rouler sur l'autoroute.
Sur la longueur du pont, et quelques dizaines de mètres avant et après, ce n'est pas l'autoroute.
Voilà, c'est pas l'autoroute, c'est ça. Mais bon.
Et donc, la voie de droite et les voies de gauche sont à 70, je crois. Et la voie de droite est à 50 justement pour qu'on les vélos soient autorisés à passer. Mais concrètement, c'est quand même l'autoroute si faut. Voilà.
Bon, on vous laisse aller.
C'est des voies rapides et avec beaucoup de circulation d'automobilistes.
Je crois que le plus simple, c'est tout simplement d'aller voir sur Google Maps.
Oui, parce que voilà. Ne conseille pas aux gens d'aller visiter Lyon et de
passer par le pont de la Mulatière.
Je veux dire, bon,
c'est pas le. Enfin,
c'est l'endroit cyclamical rêvé.
Voilà, c'est pas agréable.
Garder un bon souvenir de Lyon.
Oui.
Voilà.
Petite news statistique, j'ai lu ça dans le journal Lyon Capital et ça date de début mars, donc ça concerne le premier trimestre, voire les deux premiers mois. Le titre de l'article est « Moins d'accidents, mais plus de morts sur les routes en 2015 », donc sur les deux premiers mois, et je n'ai pas bien compris si ça concernait uniquement la préfecture du Rhône, ce que je pense, tout Rhône-Alpes, voire la France. Vu la source de l'information, j'imagine que c'est sur le Rhône. Donc voilà, en gros, il y a eu moins d'accidents pour une même période donnée, mais plus mortels. Ça concerne pas le vélo uniquement, mais malheureusement, tout le monde, tous ceux qui roulent.
Mais comme on en discutait il y a quelques temps, on est peut-être arrivé à un seuil en dessous duquel l'accidentologie, on pourra difficilement descendre.
C'est bien possible, ouais.
Bon, c'était pas une news marrante.
Non, mais bon, à savoir quand même.
Un petit accessoire pour les femmes. Enfin, non, pas pour les femmes, en fait.
Ouais, enfin, c'est peut-être pas dans le cyclocast, non ? Il y a l'autre podcast pour en parler.
Alors, bon, la blague, c'est que récemment, comment dire, j'ai peu d'ailleurs, mais j'ai participé un petit peu à un débat sur le forum Vélotaf sur le fait de porter une jupe et de rouler à vélo, qui a un petit peu dégénéré en bataille d'opinion et d'idéologie. Mais je voulais quand même présenter le Poupoupidou, parce que j'aime bien le nom. Mmh. Le Poupoupidou, c'est une pince à jupe aimantée.
Rien à voir avec le chien de Walter Proof.
Non, pas Pompidou, mais Poupoupidou, comme Betty Boop.
Comme Marilyn.
Au passage, on salue Walter. Hein.
Oui.
Voilà, et puis Pompidou.
et Betty, si elle nous écoute.
Exactement.
Et donc l'idée, c'est que c'est... Comment expliquer ça ? Bon, alors déjà, c'est fabriqué à Nantes. C'est un tout petit objet. Pour dire la vérité, je sais pas s'il vaut mieux pas se le fabriquer que se l'acheter. Parce qu'en fait, il s'agit d'une pince à linge avec un aimant collé dessus. L'intérêt étant que vous aimantez ça sous votre selle. Et avec la pince à linge, vous pincez le devant de la jupe, j'imagine, pour accrocher la jupe à la selle. Et comme c'est aimanté, si jamais vous oubliez ça et que vous descendez, vous emportez l'aimant avec, quoi. Et donc vous avez juste une pince qui pendouille à votre jupe.
Mais pas la jupe toute déchirée.
Mais pas la jupe déchirée. Et comme, en tout cas, toutes les selles que j'ai utilisées, il y avait une partie en métal.
Le gros souci, c'est si tu as une selle avec un rail en titane, parce que le titane n'est pas magnétique, mais...
Alors si t'as une selle avec un rail en titane et que tu roules en jupe, eh ben écoute, contacte-moi.
C'est assez rare, on est
bien d'accord. On tiendra copie.
Ouais.
Non mais donc voilà, donc on va dire j'ai déjà fait une espèce de dossier sur le sujet, je crois, enfin
oui.
Oui.
Hein, bon voilà, roulez à vélo en jupe, vous mettez une jupe, vous montez sur votre vélo et ça y est, vous le faites. Mais si vous avez envie d'accrocher votre vélo
d'ailleurs, faut qu'on fasse un dossier nous sur faire du vélo en kilt.
Ouais, pas de problème.
Eh ben vous pourrez tester.
Je rangerai ma clé mort dans ton pot à parapluie dans l'entrée.
Vous pourrez tester cet accessoire, il est pas réservé aux porteurs de jupes. Toute forme de ce genre de vêtements est possible.
Ok. Alors, moi je vais vous parler, donc là, France Info a fait un billet avec également aussi une interview sur le retour en force du vélo.
Du vélo, c'est qui lui?
À l'occasion des championnats du monde du cyclisme.
Ah, d'accord.
Et donc, où il parle de 20 millions de Français qui pratiquent le vélo, mais de façon inégale entre les vélos taffeurs, les Raymond, les cyclistes du dimanche, les cyclotouristes, mais qui ne font, à part leurs vacances, qui font toutes leurs vacances en vélo, mais qui ne font quasiment pas de vélo en dehors de ça, etc. Enfin, donc, des façons très, très variées de pratiquer le vélo en France. Mais voilà, ce que je voulais souligner avec cette news, bah, c'est que le vélo, on en parle dans tous les médias, de plus en plus, et c'est bien un signe que le vélo est un mode de déplacement qui regagne des lettres de noblesse aujourd'hui.
Notre peuple vaincra.
La cause. Non. Une fois.
J'ai découvert un nouveau vélo. Je pense qu'on en a jamais parlé ici, mais il me semble en avoir déjà entendu parler ailleurs. Il s'agit d'un vélo connecté.
Il y en a plusieurs.
Alors là, c'est le Valour. Le Van Oaks Valour. Et la news, c'est juste qu'il a levé 1,6 million de dollars.
Il a levé 1,6 million, c'est-à-dire?
Il y a des gens qui ont donné des sous.
Un projet de crowdfunding?
Non, je pense qu'il.
C'est juste une levée de fonds d'investisseurs.
Attends, je vais revérifier ma news. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tellement levée de fonds d'investisseurs, j'avoue.
Que ce soit des investisseurs purs investisseurs ou de crowdfunding, donc, c'est une levée de fonds.
Préalablement, il y a eu un crowdfunding sur Kickstarter, et là il y a un accélérateur et des business angels qui ont donné 1,6 million. Donc le 1,6 million, c'est le crowdfunding qui était 800 000 dollars et ce qu'ont rajouté les business angels, comme on les appelle. Donc le cofondateur qu'ils ont interviewé s'appelle Ali Zaïd. Voilà, j'aime bien dire le nom des gens, ça les rend un peu célèbres. Mais le truc qui était intéressant, c'était plus la technique qui m'intéressait. Comme d'autres vélos connectés, l'idée c'est qu'il y a des capteurs dispatchés sur le vélo, notamment quelque chose pour surveiller les angles morts.
Ça, c'est une bonne idée.
Et ça vibre dans les poignets, vut, ça.
Mais c'est les angles morts
du vélo.
C'est pas quand le vélo se retrouve dans l'angle mort d'un poids lourd, par exemple.
Non, je pense que c'est plutôt...
Là, ça me semblait un peu technique.
L'angle mort du vélo. Il y a aussi un système de GPS avec des diodes dans le guidon pour te dire, genre, va par là. J'imagine que c'est un peu que genre des clignotants.
Oui, ouais, ça serait plutôt va à gauche, va à droite, comme la voie de la
GPS. Tout à fait, mais normalement, il te le dit un peu à l'avance, si tu veux. Il te dit, genre, troisième rue à gauche, donc peut-être qu'il y a un système de diodes, 1, 2, 3, il clignote trois fois pour dire troisième rue à gauche, enfin... Ça, j'ai pas étudié, mais je trouvais ça rigolo, tout ça. Bon, et l'idée, c'est que tous les vélos sont connectés entre eux. Donc, s'il y en a un qui disparaît, en fait, grâce
aux
autres.
Comme plein d'amis.
Comme quoi ?
Comme des amis.
Oui, ce sont des vélos amis entre eux.
C'est joli, c'est beau.
999 dollars canadiens.
Je connais pas le cours du dollar canadien.
Le vélo complet ?
Pour les early birds, donc c'est-à-dire pour ceux qui l'achètent tout de suite maintenant parce qu'ils y croient à fond. Et c'est en carbone, 7 kilos. Voilà.
900 euros pour...
9 euros, oui. 9 Allez, euros, pop. Non, en gros, oui, c'est 1000 euros.
1000 euros,
c'est pas cher, non ?
Non, c'est pas énorme.
1000 dollars, pardon, mais bon, c'est...
C'est des dollars canadiens, donc je ne connais pas le...
Bah, c'est ce qui était marqué, ouais, dollars canadiens. Mais bon, même si jamais c'était au même prix que le dollar américain...
À l'époque où je connaissais un tout petit peu le cours du dollar canadien, j'avais un ordre de grandeur du dollar canadien, c'était plus bas que le dollar américain. Donc.
Alors malheureusement, il faudra l'importer parce que pour l'instant, il sera produit et livré qu'en US et Canada.
Okay. Alors je vous le dis, bon courage. J'ai déjà voulu commander au Canada, c'était voilà. Le bordel.
Mais du coup, la news, c'est pas tellement...
Si
la...
on voulait vraiment, on a des copains là-bas.
Ouais.
La news, c'est pas tellement la création de ce vélo, etc. C'est le fait qu'ils aient eu plein de sous, donc peut-être que ça va. Y a plus de chances que ça se fabrique réellement.
Qu'on en voit bientôt, quoi.
Ben, ça dépend où tu roules, mais si tu roules aux US, peut-être.
D'accord. Je vais pas lancer ça dans une nouvelle news, mais ton truc sur les détecteurs d'angle mort me fait penser à un truc dont qu'on a pas traité comme news, il me semble.
Quoi ?
Il me semble que c'est Jaguar qui avait lancé ça. Ça a un peu buzzé il y a quelques mois. Un nouveau modèle de voiture qui est équipé de détecteurs d'angle mort et qui font apparaître, changer la couleur dans l'habitacle pour signaler et émettre des vibrations dans les pédales.
Les pédales de la voiture.
Oui. Alors bien entendu, la vidéo démonstrative.
Comme on a aussi des pédales à vélo.
Était avec le chauffeur, le conducteur qui était en train de pianoter son téléphone.
Ah, il était pas en train de boire déjà.
Oui, non. Mais... oui,
de toute façon, boire au volant, c'est une mauvaise idée, on en renverse.
Oui.
Mais voilà, donc bon, c'est une idée intéressante, mais je sais pas comment est-ce qu'on peut éduquer les gens à lâcher leur téléphone dans la voiture. Moi j'ai bien une idée. Et ouvrir leurs yeux un petit peu de temps en temps.
Moi j'ai bien une idée, c'est la claque dans la gueule, mais c'est dur à appliquer.
Ouais, voilà.
Ben il y avait eu, je suis désolé, c'est presque hors sujet, mais il y avait eu un spot au début d'un film au cinéma où il y avait une espèce de. Je pense que tout le monde a vu ça. C'était en Corée, il me semble. Donc, il y avait un film, genre film publicitaire, où on voyait comme si on était au volant d'une voiture, une route se déroulait.
Puis là, on entend tabadap, tabadap, tabadap.
Non, tabadap. Et ils avaient réussi à envoyer un SMS à tous les spectateurs. Donc, tous les spectateurs sortent leur téléphone, le consultent, et là, c'était accident dans le film.
Ouais, bing, là. Ouais,
et voilà. le spot était fait sur l'immersion, et du coup, le fait de dire, vous voyez, vous avez consulté vos SMS, et il a fallu ce petit temps d'inattention pour que ça soit l'accident.
Tout à fait.
Ça doit vraiment marquer comme expérience.
Voilà, il s'est joué sur le fait que la majorité des spectateurs ne voyaient pas ce qui avait causé l'accident.
C'est l'interaction qui fait que ça marque, ouais.
Mmh. Oui, c'est le fait de participer à ça qui fait que ça...
Ouais. Maintenant que tu le dis, je m'en souviens, ouais. Bah, c'est une...
J'avais trouvé ça assez malin, mais bon, c'était limité aux spectateurs de cinéma, et même quand on regarde les gens faire ça, quand on regarde ce petit film, on se dit « Ah, c'est chouette, c'est une bonne idée, etc. » Mais
il faut que, oui.
Ça ne te donne pas forcément la conscience que c'est dangereux.
Alors, pour la news suivante, en fait, cette news-là, je l'ai piquée à un podcast que j'écoute, qui est l'improbable podcast, où elle professeur nous parle d'un illuminé. Bon, il est quand même diplômé de psychologie cognitive, c'est dire s'il est illuminé, a pour projet d'aller... le problème, c'est que j'avais préparé cette news, mais on a dû décaler l'enregistrement. Ça aurait dû être avant, donc je n'ai pas pris de nouvelles. Donc il avait comme
projet... Tu rétropédaleras,
c'est pas grave. Oui, voilà. Il avait pour projet d'aller à Melbourne, en Australie, pour récupérer le prix de champion du monde de track stand, ou de surplace en vélo.
Oh.
Il y a des championnats du monde de track stand.
Mais j'imagine c'est
une épreuve dans les au cours des championnats du monde de coursiers, donc qui a eu lieu début avril.
Des championnats du monde de coursiers.
Oui, ça t'es quand même au courant que ça existe.
Je veux même pas en sortir vivant de ce podcast. Il y a Grinchot qui va m'en coller une avant.
Possible.
Mais voilà, donc alors j'ai dit il va récupérer le prix parce que oui, le garçon n'en est pas un coup d'essai. Il a déjà été champion du monde de track stand, mais également de plus belles figures lors du CMWC, donc c'est le championnat du monde de
Championship World.
Le coursier.
Coursier World. Championship,
World Championship, World Contest, je ne sais plus, en 2013 à Lausanne. Mais il détient également d'autres records farfelus, comme le record du monde d'endurance en équilibre sur place en vélo, sans les mains et sur un seul pied.
Sur un seul pied ?
Oui.
Et d'endurance, ça signifie qu'il mange et qu'il boit en même temps ?
C'est pas suffisamment long pour qu'il ait besoin de manger et de boire.
On ne sait jamais.
Reste sur un seul pied, sans les mains, debout sur ton vélo pendant 9 minutes 41 secondes. On en reparlera.
Très bien, je vais montrer.
Concrètement, ça veut dire qu'il a le pied sur la selle et puis il est en train de faire l'avion, quoi.
Ou sur une pédale et il est complètement décalé, penché. Oui. Est-ce que tu pourrais nous trouver la vidéo de ça ?
J'ai plein de vidéos, je vais vous mettre ça.
Ah ouais, il faudra que tu nous mettes les...
J'ai plusieurs vidéos du garçon.
J'en vois passer des bonnes soirées.
Mais bon, en fait, ça fait beaucoup plus longtemps que ça qu'il sévit, puisqu'il détient un autre record du monde.
Oh mon Dieu !
Celui du 50 km en marche arrière.
À vélo ?
À vélo.
En fixie ?
Oui, sûrement avec un fixie.
Ça, c'est un fixie, ouais.
Mais on sait jamais, les mecs.
50 km en marche arrière, déjà, faut les faire.
Ne le sous-estimez pas.
Ou remarque peut-être qu'il avance, peut-être que le vélo allait vers l'avant, mais que lui il avait le cul sur le guidon.
Oui, peut-être. Je pense que c'est peut-être
aussi
comme ça.
Il y a d'autres techniques pour faire la marche.
De toute façon, c'est un fixie. Et il a décroché ce record alors qu'il avait
3 grammes dans le sang.
13 ans.
Ah, c'est pour ça il avait pas conscience que c'était dangereux.
Oui, de façon que maintenant il est un peu plus vieux et il continue à faire ce genre de conneries.
On en connaît d'autres.
Mais donc revenons
à la vieille attaque pourrie. Là aussi, toi tu tapes sur Tom 4.
Pas du tout.
Ah bon, non,
bon, alors revenons à son projet. Donc depuis quelques temps, il se promène à travers la France.
À vélo ?
À vélo. Avec son vélo en tout cas, principalement dans des petites bourgades non rigolos, donc Bibiche, Bouche-Porne, Verge, Verru, Mon Cul.
Est-ce que dans le lot il y a Chatusange le Goubet ?
Je ne sais pas, je n'ai pas la liste exhaustive de tous les patelins où il s'est arrêté.
Ah, ça c'est bon, c'est dans la Drôme.
Mais voilà, il cherche les patelins au nom pittoresque. Et pour en fait, ça lui sert à financer ses participations pour les championnats du monde et ses déplacements. Et il fait ça en proposant un spectacle, en allant frapper aux portes chez les habitants.
Bah, j'imagine, c'est une sorte de.
Et donc il fait un spectacle de track stand avec jonglerie au milieu du salon chez les gens.
Je propose qu'on entraîne les enfants à faire ça pour gagner des.
Et donc c'est voilà. C'est
bonjour le matin.
C'est le même concept qu'il a appliqué en Australie pour aller à Melbourne.
Génial.
Donc voilà, il a un site qui s'appelle un vélo dans le salon plus un saucisson.com.
Faut qu'on l'invite à Lyon, on a du saucisson.
D'accord.
Le salon est pas très grand, mais il y a la place de mettre son fixie.
Est-ce qu'il demande un tarif fixe pour ses prestations ou pas? Parce que franchement,
alors en fait, il a eu plusieurs projets autour de ses.
Tu l'invites à Lyon, ça te fait une animation mais du tonnerre pour ton association.
Ah ouais, effectivement,
pour promouvoir le vélo.
Ah ouais.
Là, il t'a des badauds.
Donc voilà, il faudrait qu'on essaie de rentrer en contact avec lui. Et,
tu l'invites au PCBM, qui est donc le Paris Cargo Bike Meeting pour les camionneurs.
Ou le NCBM, le Nantes Cargo Bike Meeting, qui aura lieu le week-end du 6 juin, je crois.
Le mois de juin va être chargé.
Je vous donne la date comme ça de tête, mais c'est. Mais,
une information à mettre conditionnelle.
Voilà, mais recherchez sur Facebook, sur. Voilà. Nantes Cargo Bike Meeting. Et ça va être tout pour cette news qui était déjà bien longue.
Une toute petite news, j'ai pas pu y aller et ça me rend triste. Il y avait un salon qui s'appelle Vélozon à Chambéry, donc qui est pas très loin de Lyon, qui était le 28 et 29 mars, qui était le forum du voyage à vélo. Et donc du coup, comme je n'ai pas pu y aller et que j'espérais qu'on enregistre le podcast avant, je voulais annoncer ça.
Oui.
Donc s'il y a des gens qui ont pu y aller, qui nous contactent et qui nous disent si c'était bien, nous pourrons même les interviewer au besoin.
Ça sera avec plaisir.
Alors, j'ai découvert récemment que le constructeur britannique Frog propose ce qui semble être un concept unique, un vélo de course cyclocross pour des enfants à partir de 6 ans. Et oui, unique parce que pour les petits minots, des vélos de course qui soient équipés correctement, ça commence avec du 24 pouces et du 24 pouces, ça va être entre 8 et 10 ans pour commencer à monter dessus. Là, il s'agit d'un vélo de course cyclocross. Cross de 20 pouces.
Pour ceux qui ont réussi leur vie.
Oui, ça c'est une boutade qui dit que si à 3 ans tu ne sais pas faire du vélo sans petit trou, ton père a raté sa vie.
Ça touche que les pères, donc je suis tranquille.
Voilà, mais ça veut dire qu'à chaque gamin tu remets ta vie, ta réussite sociale en jeu. Donc pour en revenir là, donc c'est un cyclocross en 20 pouces avec un vrai cintre course, des petites cocottes, 9 vitesses. Donc un vrai petit vélo de course, mais taillé pour les minots, avec des manivelles plus courtes, enfin une potence courte, un cintre qui est un peu plus compact que ce qu'on trouve généralement.
Si tu es nain et cycliste, contacte-moi aussi.
Hein, si tu es... Oui, d'accord. Pardon,
je me demande en fait si ça convient pour les personnes naines, mais finalement...
Oui.
J'imagine que peut-être qu'il y a déjà des cadres S.
Ça peut également convenir pour des...
Voilà, 20 pouces, ça me paraît assez petit quand même, donc de toute façon, les 24 pouces que tu évoquais au début pourraient convenir peut-être.
Ça va dépendre, oui.
Mais l'intérêt qu'il y a peut-être, je sais pas si tu as le poids, mais ça serait, c'est peut-être aussi que le cadre est réellement proportionné pour des enfants. C'est pas simplement des tubes.
Le cadre est réellement proportionné pour des enfants avec des tubes de bonne qualité.
Avec un diamètre peut-être un petit peu plus réduit puisque le gamin est plus petit, donc plus léger, etc.
Mais alors au niveau du poids, je le dis de mémoire, je crois qu'il pèse 9 kilos, donc ce qui reste
assez lourd.
Proportionnellement avec la taille du gamin, assez lourd.
Ouais.
Le problème, c'est que ce qui pèse lourd,
ça fait la moitié
vélo,
du poids du gamin.
C'est les roues. Des roues de 20, même en 20 pouces, des roues, ça pèse encore un certain poids. C'est le pédalier, la cassette. Ouais. Mais par rapport à des vélos d'enfants qui sont parfois beaucoup plus lourds que ça, c'est un vrai vélo.
C'est un vélo de cross. C'est pas un vélo.
Un vélo course, cyclocross.
Ah, course, pardon.
Cyclocross, tu peux faire les deux.
Voilà.
Okay.
Les deux. Qui est livré avec deux jeux de pneus. Donc des pneus à crampons
course
pour
et des
le
pneus cyclocross.
Voilà.
Le Verenti de Crazy, c'est un cyclocross.
Très bien.
Voilà. Route et
ah
cross.
Oui.
Voilà.
Et ça c'est quand j'essaye d'avoir l'air intelligente alors que je comprends rien.
Et il est monté comme beaucoup de cyclocross aussi avec des leviers additionnels pour quand les enfants ne sont pas encore n'ont pas encore la prise
il est bien
des
monté,
cocottes.
Donc.
Oui, il est bien monté.
TTBM.
En parlant de gens qui font les kékés à vélo, je sais pas si ça a sa place dans ce podcast, mais j'ai vu la bande-annonce en frémissant un petit peu d'un film appelé Road Sage de Luca Brunel.
Oh pff.
Luca Brunel, ça me dit quelque chose ce nom.
Luca Brunel, c'est un bourrin asphyxie, quoi. C'est un livreur. Ah, il fait des vidéos qui sont sympas, mais.
Alors, disons qu'il ne promeut pas le respect de la loi et la courtoisie à vélo. C'est le seul problème. Là, c'est une bande-annonce, donc il s'agit d'une vidéo d'une minute trente.
C'est quand même un problème d'envergure, je trouve.
C'est un vélo d'une minute trente où on voit des gens en ville, des cyclistes un peu tarés en ville. Ils disent qu'ils sont allés de Hong Kong à Mexico City, dans 15 villes et 10 pays. J'ai pas beaucoup enquêté non plus pour savoir quelles étaient les villes et les pays. On sait jamais s'il se passait près de chez vous ou près de chez nous. Et dans le petit descriptif de la vidéo YouTube, il est même dit il y a des altercations avec la police.
Luca Brunel, il est connu pour être un cow-boy en fait.
C'est ça. Donc c'est pour ça que je l'ai un peu regardé en serrant les jambes et en serrant les fesses, parce qu'il y a des fois je me disais oulala, mais ils vont se faire juste coincer entre deux camions, c'est n'importe quoi. Donc si vous aimez ce genre de sensations, vous pouvez toujours regarder. C'est un peu le contre-exemple du respect du code de la route, mais
voilà.
C'est intéressant aussi.
Je te cache pas que je l'ai vu passer et quand je vois Luca Brunel, je ne clique même plus. Ça me file des boutons, donc voilà.
Tu es dépité.
Ah, ça me fait peur quand même.
Bah, ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont habillés un peu en Raymond, quoi. Donc ça fait un peu peloton de Raymond lâché dans la ville en faisant n'importe quoi avec des caméras sur le casque à des moments.
C'est ça.
Voilà. Des fois, il y a des phases un peu plus BMX. Enfin bon, bref. Si vous avez une minute trente à perdre, comme on dit.
Ok. Alors, vous l'avez sans doute déjà vu car la vidéo buzz pas mal ces dernières semaines. Volvo, donc le constructeur de voitures, a développé un spray invisible de jour, mais réflectif la nuit, qui permet de transformer les surfaces peintes en gigantesques catadioptres, sans pour autant avoir apporté une veste digne de la DDE.
Tu veux dire une Lagerfeld ?
Tu parles de qui, là ?
De personne en particulier, voyons.
Ouais.
Attends, Karl Lagerfeld lui-même promeut les vestes DDE.
Il promet des gilets, les vestes, gilet, c'est beaucoup mieux. Et toi, fais gaffe si ton tibia rencontre un objet contondant tout à l'heure. Hein.
Donc, je crois qu'il faut préciser que Proculus est l'heureux détenteur d'une veste jaune bien réfléchissante.
Une panacée à Working Solutions en Gore-Tex, mais qui effectivement est jaune très très fluo. Je te
ça pique un peu les yeux, mais apparemment, ouais. Ça fait le job. C'est-à-dire que contrairement à un gilet réfléchissant, il y a des manches, un col, ouais. Et ça tient bien le chaud.
Je me moque, mais.
En fait, t'es jaloux.
Voilà, enfin, donc bon, sans avoir apporté une veste digne de la DDE ou transformé notre vélo en discothèque des années 80. Tout en mode fluo. Donc dans la vidéo, on voit non seulement des vélos intégralement repeints avec ce spray, donc qui ont même l'air d'être un peu trop intégralement parce que même la chaîne brille, mais également des textiles.
Mais est-ce qu'on les voit rouler ?
Oui, on les voit rouler.
Oui. J'ai regardé la vidéo et ça m'a pas traumatisé que la chaîne soit repeinte. Donc.
Alors, en effet, il ne s'agit pas exactement de peinture puisque j'ai regardé un peu le site de Volvo. C'est lavable.
Oui, et ça c'est bien.
Et ça partira au bout d'une semaine environ. Alors c'est bien, oui, et pas bien en même temps, parce que si toutes les semaines il faut renouveler ta couche de luminière...
C'est parce que tu changes de veste, ni de sac, ni de chaussures, ni d'affaires en fait, tu ne changes pas d'habit. C'est pour ça que tu trouves ça pas bien. Personnellement, je trouve ça génial de pouvoir toutes les semaines repeindre mon sac pour qu'il soit réfléchissant.
Oui, mais ça veut dire aussi que tu vas rajouter, même si tu la vois pas, un produit par-dessus, donc il va falloir le laver de toute façon régulièrement ton sac.
Ben non.
Alors, je
sais
tout
pas
à
comment ça vieillit dans le temps.
Tout à l'heure,
moi, je serais assez curieux d'essayer pour un cycliste au quotidien, devoir repeindre son équipement toutes les semaines sera assez fastidieux et sûrement assez onéreux.
Tout à l'heure, je vous disais que j'étais très très mitigé sur cette peinture. Alors pourquoi ? Moi, je dois avouer que ça me semble être un peu un coup de com' parce que derrière ça, Volvo essaie de communiquer sur le fait que on voit pas les cyclistes et que du coup, c'est eux qui créent des accidents. Il y a un petit peu une...
Oui, voilà, la vidéo promotionnelle...
Il y a du bike shaming, un peu.
Alors,
déguisé.
C'est très très ciblé en Angleterre.
Où ils aiment ça.
La relation entre les automobilistes et les cyclistes est très très tendue.
Déplorable, oui.
Déplorable et presque un euphémisme, on pourrait même dire.
Mmh. C'est la guerre ouverte.
Déjà c'est très ciblé en Angleterre. Sur le site de Volvo, ça ne parle que en anglais. Ça ne cible les adresses espèces de boutiques où on peut acheter le spray ne sont que autour de Londres.
C'est vrai.
Donc en effet, c'est excessivement ciblé.
Alors ça c'était la première chose que je voulais souligner. Et ensuite, si tu veux, tu parles de produits Mogor. Il existe des bombes de produits qui sont beaucoup plus pérennes. Je pense entre autres par exemple aux bombes d'imperméabilisant qu'on utilise pour les godasses, pour les vestes, voire même pour les pantalons.
Oui, bah, j'ai pas envie d'imperméabiliser mon sac en cuir, merci.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les imperméabilisants, ça dure 3-6 mois. On parle d'un produit qui est transparent, donc que tu ne vas pas voir sur ton vêtement. Donc techniquement, ce produit, il pouvait le faire de manière plus pérenne, si tu veux, quelque part. Il pouvait faire une bombe qui allait tenir 6 mois sur ton sac, et on voit le produit réfléchissant juste à la lumière des phares.
Je pense que l'imperméabilisant, de toute façon, ne survit pas au lavage.
Si, si.
Les produits imperméabilisants, en règle générale, ça survivra pas à mon lavage en machine. Je parle pas d'un lavage d'une pluie.
On va pas faire,
Ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus costaud, si tu veux.
Je pense au sac à dos. Par exemple, typiquement, tu prends ton gamin avec toi, tu lui bombes un peu les côtés de sa veste ou je sais pas quoi. Ton gamin, 3 mois plus tard, il a changé de taille, donc il a pas la même veste.
Ok, mais ce que je veux dire par là, c'est que...
L'exemple que je donnais, c'était pour des produits où tu vas pas avoir ta veste du quotidien toujours la même.
10 jours, c'est pas énorme.
Ce que dit Proc, c'est qu'on pouvait faire le même produit, qu'il y avait une... Il y a déjà des produits...
Mais ils veulent en vendre, donc évidemment que c'est lavable et ça s'en va.
Tout à fait.
Mais attendez, on parle de matos à chaque fois, vous en rachetez, et là vous êtes pas prêt à racheter
la bombe de peinture qui doit faire 200 ml est quand même à 19 livres.
Voilà.
Je suis pas sûr que tu fasses un vélo complet avec une bombe de peinture. Ou tu fais un vélo, mais tu fais pas ton blouson avec. S'il faut que tu mettes quasiment 20 livres toutes les semaines pour être visible.
200 minutes, c'est pas mal en termes de bombe de peinture. Pour faire ta veste, tu peux. Les bombes qui sont vendues en magasin de bricolage, c'est 400 millilitres. C'est un peu large. C'est le double. Et ça dure assez longtemps.
Mais
moi je trouve ça sympa comme idée.
L'idée est sympa en elle-même.
Après, des concurrents parce que ils sortent ça, ils font un gros coup de com, etc. Il y aura peut-être des concurrents et des produits concurrents. Le fait que ça soit lavable, je trouve ça même plutôt cool
La vidéo a buzzé d'ailleurs. Nous, j'en parle là ce soir.
Moi, je suis pas prête à saccager mes collants à un truc imperméabilisant à fond et tout. Mais si je sais que je peux juste faire un trait sur mes collants.
Attention, j'ai parlé d'imperméabilisant.
Non, mais d'imperméabilisant, un produit qui va rester tout le temps.
Voilà. Mais si tu veux, s'il n'y a pas de traces de dépôt ou quoi que ce soit, et que
y en a forcément, tu déposes des particules.
Voilà, tu vas déposer des particules.
Donc j'imagine que même si c'est lavable et que ça s'en va au fil du temps, ça doit être des particules un peu comme de la laque pour les cheveux au final.
Faudrait voir quoi.
Je pense que ça doit ressembler à de la laque pour les cheveux si tu veux.
C'est un peu l'idée que j'en ai aussi.
Et sauf que c'est des particules réfléchissantes. Et je voulais préciser un truc, même si je suis peut-être partial, les voitures Volvo sont quand même réputées pour leur solidité et leur sûreté.
Donc qui
continue à essayer de jouer sur cette image de regardez, on fait quelque chose pour éviter encore plus les accidents, même si l'idée c'est de dire en fait c'est à cause des cyclistes qu'il y a les accidents.
Volvo a toujours entretenu cette image.
Ils ont quand même toujours
de sécurité et d'être novateurs sur la sécurité dans leur voiture d'abord, mais les capots qui sont adaptés pour moins blesser les piétons, etc. Ils ont fait
ça n'est pas la solution parce qu'on se trompe de coupable. C'est pas le cycliste qui est coupable de provoquer forcément l'accident, même si je parlais juste avant des...
Non, Brunel, c'est un donneur d'organes, on est bien d'accord.
Voilà, parlais juste avant de gens qui font les kékés sur la route.
Ok. Bon,
je clôt là-dessus en disant une chose, en proposant aux poditeurs de nous laisser des messages sur le répondeur et de nous donner votre avis. Puisqu'on va vous mettre le lien de la vidéo, vous la regardez, vous nous dites ce que vous en pensez. Bonne idée, mauvaise idée, bike shaming ou simplement question de sécurité, vous nous laissez un message, vous nous dites.
Parce que sur notre site cyclocast.fr, il y a un répondeur audio. Ça fonctionne même avec votre téléphone portable.
Voilà, on vous rappellera tout ça en fin d'émission.
Je pense qu'après toutes ces news... Ah, pardon, Grincheux, tu as encore une
news. Tu me disais que tu avais plein de news.
Bah oui, j'ai tout dit.
Bah, finalement, tu n'en avais pas tant que ça. Alors, si je vous parle de la petite ceinture de Paris, est-ce que ça vous évoque quelque chose?
Oui.
Moi, non.
Non, enfin, voilà, Mogor et moi, étant parisiens d'origine, ça nous parle beaucoup plus. Donc, il s'agit en fait de...
Excuse-moi de t'interrompre. Ça t'évoque... Avant, il y avait des bus qui s'appelaient les PC, puis qui a été divisé en trois bus, les PC, qui étaient des bus qui faisaient faisait le tour de Paris.
En fait, voilà, d'accord. Avant.
Avant, il y avait un train.
Il y avait un train, une ligne de train qui faisait le tour de Paris.
Ah oui.
On a Abel Prieur, oui, qui nous en a parlé de ça. Oui. Ils veulent en faire une piste.
Alors c'est ça, voilà.
Ça devient hyper beau.
C'est un, la petite ceinture à Paris et le débat incessant de son avenir. Donc aujourd'hui, sur fond de candidature de Paris pour les JO de 2024, on évoque la réhabilitation de ce tronçon en majorité à l'état de friche. Alors les projets pour le problème, c'est qu'il y a tout un problème de cadre politique, parce que la petite ceinture appartient à la SNCF, qui est prête à la rétrocéder à la commune, moyennant que ce soit la commune qui s'occupe de l'exploitation et des frais, ceci, cela. Et il parle aujourd'hui d'en faire un vélo-rail. Donc,
qu'est-ce qu'un vélo-rail ?
Un vélo-rail, tu sais, c'est les espèces de plateaux qui se montent sur les rails, puisque sur la petite ceinture, une grande partie des rails sont encore présents. Et c'est un plateau avec des
roues de train.
Des roues de train.
Un train à pédale, quoi, en fait.
C'est un train à pédale, voilà.
Ah ! Mais, génial !
Du
pédalo, mais
beaucoup,
en train.
Beaucoup de gens se sont déjà...
On peut le faire en maillot ?
Ouais, sauf que beaucoup de gens se sont déjà levé contre cette idée bobo politico écologique, parce que c'est un truc qui va coûter cher à mettre en place et qui ne servir qu'à une seule chose, aux touristes. Alors qu'on y préférerait largement une chose qui est réclamée depuis des années, ce qui est transformer cette petite ceinture en une voie verte avec des pistes cyclables correctes. Alors en fait, il y a déjà des tronçons de la petite ceinture qui ont été aménagés en voie verte, pas toujours cyclables, parfois très simplement pour des questions d'accès, parce que la petite ceinture passe parfois en contrebas de la route, mais des fois aussi sur des ponts. Donc les tronçons qui sont sur des ponts en hauteur sont pas accessibles à vélo, puisqu'il n'y a que des marches pour y accéder. Mais une réhabilitation de la petite ceinture en voie verte serait quand même nettement plus bénéfique aux Parisiens,
oui,
et pas uniquement aux touristes.
Surtout qu'actuellement, pour faire le tour de Paris, il n'y a plus les bus PC, mais il y a des trams.
Voilà, ou quasiment plus de bus, mais des trams.
Et puis faire une piste, une voie verte qui à la place d'un vélo rail, ça présente un intérêt, c'est que du coup tout le monde peut circuler. C'est vraiment un truc utilitaire et moins cher qu'un vélo rail. Le vélo rail, oui. c'est
même
limité.
En entretien peut-être.
Même en entretien. Ouais.
C'est de la route, donc puis les skateurs pourront y aller.
Ça dépend quel revêtement ils utilisent.
Etc., quoi. Oui,
mais voilà.
Oui. En soi,
si c'est du goudron, ouais, effectivement.
Ça n'interdit à personne.
Voilà, donc c'était cette news et j'ai une news que je n'avais pas notée. Donc une dernière news qui est tombée cette semaine, je crois. Les nouvelles lois sur les amendes, les stationnements gênants. On en avait parlé l'été dernier, qui devait passer à 135 euros sur les passages piétons, les pistes cyclables.
Le stationnement très gênant, dit très gênant.
Qui devenait le stationnement très gênant et qui finalement n'avait pas été ressorti de la mise en application. Et ça va rentrer en application au 30 juin, tout comme l'interdiction de kit main libre au volant.
Et donc au guidon, par contre.
Et au guidon. Il faut s'attendre aussi à ce que le téléphone au guidon soit nettement plus verbalisé également.
Donc du coup, ça veut dire que pour les personnes qui veulent écouter de la musique à vélo, il va falloir ressortir les vieux trucs à haut-parleurs qu'on met sur les guidons.
Au moins on aura la classe et puis les gens nous entendront arriver.
Exactement.
J'écoute pas de musique à vélo parce que je me sers de mes oreilles pour me situer dans l'espace.
Je verrai comment ça se passe, parce que je considère que écouter de la musique à vélo, si c'est avec un casque ouvert, c'est pas plus dangereux que d'écouter son autoradio en voiture.
Enfin, c'est un vaste débat, quoi.
Dangereux ou risqué ?
Il y en a qui commencent à me connaître ici.
Voilà, je crois que c'est tout pour les news.
Je crois que c'est tout pour les news. Après ces nombreuses news, c'est ça de ne pas enregistrer assez régulièrement. Ce soir, Grincheux nous a préparé une petite bafouille ou un grand dossier, je ne sais pas, sur le VAE. Kézako, le VAE.
Bicycle. Alors, le VAE. Pour commencer, savez-vous de quand datent les premiers vélos électriques ?
Oui, parce que déjà, il faudrait dire que VAE, c'est vélo à assistance électrique.
Oui, le VAE, donc c'est le vélo à assistance électrique.
Il répond pas à la question.
Alors, de quand date pour vous les premiers vélos électriques?
Pour moi, c'est très vieux.
Solex, non?
Non, les premiers Solex, il me semble bien qu'ils étaient thermiques. Ah. Mais par contre, je sais qu'il y a eu des essais de voitures électriques dès le début du XXe siècle. Donc, je pense que les vélos électriques, il devait y en avoir vers cette époque-là. Je dirais entre 1900 et 1930.
1940.
Alors, c'est Proc qui est le plus proche. Donc, non, ce n'est pas les années 80, pas les années 70, même pas les années 50, vous êtes très loin de compte. 1930, c'est plus proche. Les premiers brevets, et donc les premiers prototypes, remontent à la fin du 19e siècle.
Sérieux, aussi loin que ça?
Sérieux.
Et ça brevetait quoi alors comme système?
Alors, c'était des vélos équipés d'une batterie et d'un moteur dans la roue arrière.
Ça me rappelle quelque chose.
Donc, je pense qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de notion d'assistance. C'était plus de la moto électrique, de l'ancêtre de la moto électrique. Sauf que ce qui était une moto, ça ressemblait beaucoup à un vélo parce qu'il y avait des pédales pour lancer le démarrage, etc. Deux ans plus tard, apparaîtra le premier moteur pédalier. Donc, comme quoi.
Ouais, c'est très tôt, quoi.
Voilà. Sauf que à cette époque-là, la technologie ne permet pas d'industrialiser ces.
Mais le vélo est très populaire.
Mais voilà, le vélo est très populaire.
Il y en a beaucoup partout, donc peut-être.
Comme on l'a vu quand on a été à Saint-Etienne, les recherches se font dans tous les sens pour motoriser les véhicules existants. Et donc, ça remonte aussi loin que cela. Alors, suite à ces modèles rudimentaires, il faudra attendre quand même près d'un siècle pour que le concept de VAE moderne refasse surface, puisque c'est en 82 qu'un inventeur allemand breveta ce qui est la base du VAE moderne. Et il faudra encore attendre quasiment 10 ans pour que Yamaha commercialise un VAE afin d'augmenter sa cible, la cible de clients. Ils ont essayé de motiver leurs concurrents, donc Sanyo, Panasonic, Mitsubishi, pour qu'eux-mêmes se lancent sur ce marché. Mais donc voilà, le VAE moderne, c'est le début des années 90 au niveau de la commercialisation de vrais produits. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler du VAE en France. Je vais vous faire, il y aura sûrement d'autres dossiers sur le sujet parce qu'il y a très long à raconter. Et je vais parler du VAE en France au niveau législatif, qu'est-ce qu'on a comme contraintes, etc. Parce que je ne connais pas particulièrement la réglementation dans les autres pays. Et que je suis flemmard, je ne vais pas aller chercher ailleurs. Donc, oui. Donc un VAE, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, donc c'est un vélo à assistance électrique, donc de l'assistance, et non pas un vélo qui avancera tout seul. Non, sinon, ça serait une mobylette électrique. Ça existe, mais ce n'est pas un vélo. Il faut un casque un casque homologué, une plaque et une assurance. Donc, on n'en parlera pas ici aujourd'hui.
Ça se trouve généralement aux Pays-Bas, ça s'appelle les Snorkfiets.
Alors, ça, je ne sais pas, mais ça se trouve également à Lyon.
Mais alors, est-ce que quand tu pédales, ça recharge la batterie?
Ça peut, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui.
Zut, parce que tout le monde me pose la question pour mon VAE, et c'est très énervant.
J'avais un kit qui permettait de recharger la batterie.
Le mouvement perpétuel n'existe pas.
Pour pouvoir recharger la batterie, il faut pédaler beaucoup plus que ce qu'on va consommer à l'utiliser. Donc, un vélo à assistance électrique, c'est un vélo auquel on a ajouté un moteur, une batterie et un peu d'électronique pour augmenter la puissance du pédalage de l'utilisateur. Et j'ai bien dit augmenter, car il s'agit d'une assistance et non pas de mobylette, encore une fois. Dans le même esprit, en France, l'assistance est bridée à une puissance de 250 watts, limitée à une alimentation de 48 volts et une vitesse d'assistance qui est limitée également à 25 km/h. Il faut également un capteur de pédalage, donc pour que ce soit en effet bien de l'assistance et non pas une mobylette, encore une fois, ce capteur de pédalage déclenchera la mise en marche du moteur, comme ça uniquement lorsqu'il y aura pédalage. Alors pourquoi ces valeurs? Alors pour le 48 volts, j'ai pas trop d'explications, sauf qu'à dire que c'est arbitraire parce que c'est un énarque quelconque a dû considérer que c'était suffisant. Mais les deux autres valeurs sont beaucoup plus logiques. Alors, intelligente, je ne dirais pas forcément, mais logique. Tout d'abord, le législateur a estimé qu'en usage classique, la vitesse de 25 km/h sur un vélo est tout à fait suffisante, et par conséquent, si on veut aller plus vite, on n'a qu'à pédaler plus. Pour moi, ça se tient, c'est une assistance. Si on veut aller plus vite, on prend une mobylette, on prend une moto, mais si on veut aller plus vite en restant en vélo, il nous reste la solution de pédaler.
De pédaler plus fort en fixie,
par exemple. Bon, après, le VAE en fixie, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
Ça me paraît un peu risqué.
J'imagine bien le mec qui essaie de freiner, en skidant avec une assistance électrique. Ça pourrait être drôle.
Ouais, si elle se coupe pas, c'est
un peu. Ouais.
Et la limitation à 250 watts, elle se base sur la puissance moyenne qui est censée pouvoir développer un homme, un être humain. Donc cette puissance sera suffisante exemple pour bon nombre de vélos, mais de par la conception des moteurs, sera souvent corrélé au couple offert par le moteur, et donc la capacité à faire avancer un vélo fortement chargé. Donc pour tout ce qui est vélos spéciaux, les moteurs classiques n'offriront pas assez de couple avec 250 watts. Ça c'est un problème pour les vélos qui ont besoin de transporter plus de charge, et donc les vélos qui sont les plus sujets à avoir besoin d'une assistance. Ça c'est encore un grand débat, le couple, le rapport couple et puissance du moteur. Mais donc 250 watts, parce que le corps humain est censé être capable de développer de façon continue, normale, 250 watts. Donc ça reste un véhicule propulsé par l'être humain, donc il ne faut pas que ce soit plus puissant qu'on ne l'est nous-mêmes. Alors, je vais maintenant que je vous ai parlé de la partie réglementaire française, je vais brièvement vous présenter les différents types d'assistance électrique que l'on rencontre. Alors, l'assistance roue avant, donc l'avantage c'est d'être facile à mettre en œuvre car seule la roue avant est à modifier, la batterie pouvant s'installer sur le porte-bagages. Mais comme la géométrie du vélo fait qu'on a moins de poids sur la roue avant, les capacités de traction sont souvent plus limitées. Mais par contre, ça offre un autre avantage, on a un vélo de roue motrice, puisque le pédalage que l'on va donner va faire avancer la roue arrière, et le moteur va faire avancer la roue avant.
C'était Jess qui nous disait que à l'aide des vélos à clous, des pneus à clous, avec son VAE de roue motrice, elle avait un contact absolument démentiel sur le verglas.
Oui.
Elle tenait super bien.
J'ai pas essayé, mais j'avais des pneus cloutés.
T'as une roue avant ?
Oui.
Sur le VAE ?
J'ai une roue avant, j'ai deux roues, une roue avant.
Non, je veux dire, t'as un moteur roue avant.
J'ai un moteur roue avant.
D'accord.
Ouais.
J'ai pas regardé en fait sur ton VAE, je l'ai vu assez peu souvent.
Écoute, je vais peut-être le céder bientôt, donc voilà. Si tu veux l'essayer, dépêche-toi.
D'accord.
Alors, il y a également l'assistance dans la roue arrière. Donc là, on va avoir une meilleure motricité, puisque c'est la roue qui porte le plus de charge. Mais il va y avoir des limites au niveau de la possibilité sur les transmissions, puisque on ne peut plus avoir de vitesse dans le moyeu ou de transmission à vitesse variable. Enfin, si. Alors, Bionix a développé un moteur avec les vitesses dans le moyeu. Mais c'est très marginal.
Oui, mais tu peux pas choisir entre un Nexus, un Alphine ou tes débattements.
Tu n'as pas le choix. Là, tu as un modèle qui va avec. Et beaucoup de moteurs roue arrière sont également avec des roues libres à visser et pas de cassettes modernes. Donc ça limite aussi les possibilités sur la transmission.
Je vous ai déjà dit que j'aimais pas les roues libres.
On en parlera une autre fois.
On en reparlera une autre fois, tout à fait.
Et ce qui est le plus, ce qui est souvent présenté comme le Saint Graal, les moteurs pédaliers. Donc là, il s'agit de fixer directement le moteur sur le pédalier. Donc le moteur va agir directement au niveau du pédalier et du pédalage. Et donc, on va profiter lui aussi de la démultiplication de la transmission et avoir un pédalage qui va être beaucoup, enfin la puissance apportée par le moteur va être au même endroit que la puissance que va mettre le cycliste avec ses jambes.
C'est ce qu'on trouve chez Gazelle, non ?
Ça dépend. Ils ont des moteurs arrière, ils ont
de tout.
Oui. Les moteurs pédaliers, en fait, c'est assez. Enfin, c'est dans la démocratisation, c'est assez récent.
D'accord.
Il y a quelques années, on en trouvait, mais là, c'était des bricolages avec des systèmes de double plateau de tandem, avec donc le moteur qui avait sa propre chaîne vers l'axe du plateau gauche. Enfin, c'était une usine à gaz monumentale.
D'accord, je vois le genre.
Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus compact. Il y a même des constructeurs qui proposent des kits pour transformer un vélo standard en vélo à essence électrique en changeant le pédalier. Donc on démonte le boîtier de pédalier, on met le moteur pédalier à la place, et là on a le pédalier, le moteur tout ensemble dans un qui se remonte assez facilement. Et puis aujourd'hui tous les grands constructeurs se mettent à faire du moteur pédalier parce que c'est ce qui va avoir le meilleur rendement, c'est ce qui va être le plus confortable et le plus puissant pour l'utilisateur. Donc c'est ce qu'on trouve chez Bosch, chez Shimano qui vient de se lancer là-dedans. Panasonic, je crois qu'ils en font aussi. Enfin voilà, tous les grands constructeurs de kits électriques en proposent. Donc voilà, c'était à peu près tout pour ce petit dossier. C'était juste histoire de présenter un petit peu ce qu'est le VAE et quels sont les différents types de vélos assistance électrique qu'on trouve sur le marché. Je ferai sûrement d'autres dossiers sur les grands modèles ou les intérêts d'électrifier ou non et comment faire.
Ce soir c'était le vélo Kezako et tu vas nous faire le vélo pourquoi et comment par la suite.
Ouais, voilà, on va dire comme ça.
D'accord. Bye.
Et donc ce soir, Proc.
Ouais. Et ben moi je vais vous parler un petit peu de la pollution parce que bah c'est une idée reçue qu'on entend souvent et qui est assez pénible. Dès que on a là ces derniers temps on a eu des pics de pollution qui.
L'idée reçue c'est quoi? C'est qu'on a de la pollution, des pics de pollution?
Non, ça c'est pas du tout une idée reçue. Ah. Mais l'idée reçue c'est que on est plus exposé à la pollution que
en
les
que
autres en tant que cycliste que les autres usagers de la route.
Donc ça, tu veux dire tous les autres usagers, que ce soit les personnes dans leur voiture,
dans le métro,
en deux roues motrices. Moto, scooter ou à pied.
Ce qu'on nous dit dès qu'on prend dès qu'on a affaire à un pic de pollution, on nous dit oulala, mais tu prends le vélo, mais avec la pollution, tu dois en prendre plein les poumons.
Oui, il y a eu des messages d'ailleurs un peu contradictoires en mode prenez votre vélo plutôt que la voiture parce qu'il y a un pic de pollution, mais faites pas trop de sport, genre arrêtez le jogging parce qu'il y a un pic de pollution.
Alors. Donc du coup, difficile de s'y retrouver dans ces messages qui sont contradictoires, comme tu le soulignes. Donc moi, je vais faire un petit point rapide, hein, ça va pas être très très long, là-dessus. Alors tout d'abord, quelques petites questions. La pollution, déjà, est-ce qu'elle se répartit uniformément sur une ville? Est-ce qu'on a le même taux la même concentration de particules fines, de gaz carbonique, d'oxyde d'azote, de partout, dans n'importe quel centimètre cube d'air de la ville? Ou est-ce que c'est un petit peu plus concentré au sol? Est-ce qu'à un mètre au-dessus du sol, il y a déjà un petit peu de dégagement?
Ça me paraît presque philosophique, ces questions.
Eh ouais, mais pas du tout,
non,
en fait.
C'est
très intéressant. Et en fait, il faut savoir que la réponse, c'est non. Les polluants, c'est dans l'ensemble des éléments qui sont plus lourds que l'air ambiant. Donc, ils vont se concentrer au ras du sol. De même, l'origine des sources de pollution entraîne généralement... Enfin, les sources de pollution, ça fait encore débat. On dit non, c'est pas la voiture. Certains disent non, c'est les usines. Peu importe. Mais il reste évident qu'un surcroît de la pollution vient des véhicules thermiques. Or, c'est là où on va trouver des véhicules thermiques qu'on va trouver de la pollution. Donc, c'est sur les axes fréquentés qu'on va avoir le plus de gaz polluants.
Et d'ailleurs, j'ai vu, tu en parles peut-être, on vient de se rendre compte que dans les émissions de particules, le freinage représentait jusqu'à 20% des émissions de particules.
J'allais pas en parler, mais c'est intéressant que tu le dises. Oui, tout à fait. On a repéré que dans les particules de polluants, il n'y a pas que des résidus issus des moteurs thermiques, de la combustion thermique, mais effectivement, il y a 30% des particules qui sont issues du freinage, qui viennent tant des plaquettes de frein que de la gomme des pneus. Tu as tout à fait raison. J'y pensais plus, tu fais bien de le souligner, oui, c'est vrai.
C'est pour ça qu'on est hyper immunisé en ville avec nos poumons tapissés de toute cette pollution ?
Non, je vais y venir.
Donc, t'as de la gomme des pneus dans les poumons.
La réponse, la première question que j'ai posée, c'est est-ce que la pollution est répartie uniformément ? La réponse est non. Et non, on va la retrouver à ras du sol et on va la retrouver sur les axes très fréquentés par les véhicules thermiques qui freinent aussi. Alors, est-ce qu'un cycliste, lui, va inhaler plus de polluants que les automobilistes ou que les piétons, etc. Eh bien, il est évident que, vu que le cycliste, ça reste un être vivant qui est exposé à une atmosphère polluée, il va inhaler des polluants. Mais la question est de savoir si la pratique du vélo va lui en faire inhaler plus. Initialement, je vous aurais répondu, ça dépend. Une personne qui roule au maximum de ses possibilités va en inhaler plus, alors qu'une personne qui va rouler à rythme modéré va respirer normalement comme un piéton et du coup va en inhaler autant qu'un piéton. Déjà, de 1, c'est pas tout à fait vrai parce que, comme je le disais, les polluants sont concentrés à ras du sol et plus on monte, plus la concentration va être moindre. Donc c'est bête à dire, mais sur un vélo, on est généralement quelques dizaines de centimètres au-dessus du niveau des piétons et donc du coup, on va déjà avoir une concentration qui va être moindre. Ensuite, si on compare, mes deux comparses, je sais comment ils roulent. Je sais que Mogor, tu es quelqu'un qui va plutôt avoir tendance à prendre ton temps, à profiter de la vie quand tu roules. Tu vas rouler sur un rythme plutôt tranquille, je me trompe ? Je sais pas.
Tu veux dire que je suis lente ? Alors oui, je suis lente,
non,
mais
moi,
lente. Je profite pas de la vie parce que je roule pas pour me balader, tu sais, je roule pour aller au boulot.
Ouais, mais je veux dire par là que tu canardes pas comme fait
alors en fait, j'essaye de ne pas écraser les piétons.
J'en profite de...
On profite pas de la vie de la même manière.
Bon, ok, vous avez décidé de me contredire. Ok, alors...
Ok, donc, en fait...
Et pour une fois que c'est moi qui peux...
Alors...
Je vais le plus vite que je peux, en règle générale, et ça me dérange pas, je freine juste en arrivant au feu.
D'accord, ok.
J'ai pas du tout une conduite fluide, comme...
Ok, non, c'est... En fait, quand tu parles de tes trajets, comme tu as l'occasion de parler des gens que tu croises, de ce que tu as vu, etc., alors que moi, généralement, je suis assez embrumé le matin quand je vais au travail...
C'est parce que t'écoutes écoutes de la musique, tu...
Non, j'écoute pas le matin, je suis trop... Donc du coup, c'est pour ça que je pensais qu'il y avait un rythme plus...
Alors, c'est particulier, mais en ce moment, effectivement, je suis avec mon long tail et je roule... il est super lourd, donc je roule pas vite.
Voilà. Bon, alors, mon exemple était mauvais, je le mets de côté. Bref, donc, on a
il provoque et tout.
Ouais, ben non, mais bon...
Dis c'est... pas, t'as des plus grosses cuisses que moi, que tu roules plus vite. Hein.
Du coup, donc, il va y avoir deux types de personnes. Il va y avoir les personnes qui vont rouler de manière plus tranquille, il va y avoir les personnes qui vont rouler de manière plus, plus soutenue. Et en cas de pic de pollution, ce qui va se passer, c'est que les personnes qui vont rouler de manière plus tranquille vont respirer un taux analogue de polluant, un taux de polluant analogue à celui que va respirer un piéton. Mm-hmm. Alors que une personne qui va avoir une conduite plus sportive va haleter, donc du coup, il va respirer plus de polluants, il va les concentrer dans ses poumons. Cela dit, quand on a une conduite sportive, bah, c'est un peu évident, mais on roule plus vite.
Donc on est exposé moins longtemps. Et même avec une conduite tranquille, tu vas être exposé moins longtemps qu'un piéton.
Voilà, exactement. Parce que si le piéton fait tout à pied.
Oui.
Après, s'il prend les transports en commun, je vais y venir.
S'il est dans le bus dans la rue et qu'ensuite il monte dans le bus.
Mais tout ça, ça a été calculé. Il y a une étude qui est sortie récemment.
Ah, génial.
Et justement, la question du halètement et du temps de trajet, y a beaucoup de gens qui ont dit oui, bon, ben, on a beau mettre moins de temps, malgré tout, comme on halète, on va.
On halète.
Voilà, oui, je sais pas. Oui, voilà, je sais que tu as d'autres centres d'intérêt qui sont plutôt tournés vers ça.
Les guichons, voilà. Excusez-moi.
Non, la maternité, c'était à ça que je pensais plutôt dans ma tête.
Non, les nichons toujours.
On a beau avoir une respiration cadencée, enfin plus haute.
Oui, en fait, c'est pas de rouler vite ou rouler lentement, c'est le fait de rouler au maximum de sa capacité pulmonaire, voilà. Et donc de.
Mais même si tu roules au maximum de tes capacités, comme tu es exposé moins longtemps, la pollution qui va s'accumuler dans tes poumons sera analogue à celle que tu as lorsque tu roules plus lentement.
Ah bah j'ai donc en ce moment, moi qui fais tout pour éviter de suer trop et qui me tire un vélo assez lourdingue, c'est bon, je suis tranquille.
Voilà, c'est tu.
Enfin, je suis pas impacté par le pic de pollution de la même.
Pas plus.
Pas
voilà.
Plus que si je roulais comme grincheux, vite et fort tout le temps en respirant.
Comme un sportif. Tu les respirerais plus vite, mais tu respirerais la même dose. Voilà. Mm-hmm. Donc du coup, c'est intéressant parce que les notes que j'ai devant moi sont un peu datées. Et justement, à l'époque, j'avais noté qu'il fallait avoir une conduite modérée. Et les études sont sorties il y a un mois, et justement ça prouve qu'en fait, ben non, on peut rouler à la vitesse qu'on veut, ça change rien au final. Alors, vous allez me dire, bon, le vélo c'est bien, mais dans une voiture, dans un métro, dans un bus, dans un tram, on est dans un habitacle. Donc, on est protégé de la pollution.
Mais dis-moi, ouais, Proc, ouais. L'air de la voiture, elle arrive d'où ?
Voilà, c'est là la question. En fait, il faut savoir que les habitacles, c'est des accumulateurs de pollution. La pollution rentre, mais ne ressort pas. Et alors, une chose que j'ai découvert justement en faisant ce dossier, c'est où sont placées les buses d'entrée d'air sur les voitures.
Oh, j'ai eu cette question quand j'ai passé mon permis de conduire, dis donc.
Donc tu déconnes ?
Non, je déconne pas.
On t'a parlé des bus d'entrée d'air ?
Les bus d'aération de la voiture, il fallait que je les désigne, bien sûr.
Ah oui, non, mais tu veux dire celles qui soufflent sur ton visage quand tu es dans la voiture ?
Non, je parle pas de la clim, je parle des bus d'aération. Bref.
Oui, mais
Tu as des
petites grilles qui soufflent dans l'habitacle.
Où est-ce qu'elles sont placées ?
Oui, bien en fait.
Donc, ces buses, elles viennent chercher l'air quelque part. Et l'entrée d'air, en fait, elle est située.
Sur le capot, un gros truc avec l'aileron derrière ?
Non, du tout. C'est Jackie Tuning. Non, en fait, c'est des petits trous qui sont situés, en fait, au ras du sol, au niveau des roues avant, dans le module du moteur. Autrement dit.
Au ras du sol.
Au ras du sol. Les voitures vont chercher l'air au ras du sol pour vous les souffler directement dans l'habitacle. Inutile.
En gros, ils prennent l'air dans le pot d'échappement de la voiture de devant.
Sympa. C'est exactement ça.
Sympa.
Donc, inutile de vous dire que dans une voiture, on en bouffe plein pot. Alors, vous allez me dire.
D'échappement.
Bah oui.
Excellent.
Mais vous allez me dire, mais on le sent pas quand on est en voiture.
Mais on le sent pas quand on est en voiture.
Bah oui, mais en fait, déjà, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que j'ai. À une époque, je faisais un peu d'asthme et je le sentais quand même. Et ensuite, tout simplement, comme les poumons ne sont pas sollicités, les polluants ne piquent pas. C'est-à-dire qu'au niveau de. de la sensation, du ressenti, on n'arrive pas à le sentir, mais par contre les polluants sont bien là et on est en train de les faire entrer plein pot dans dans le corps. Donc
c'est parce qu'ils rentrent plus facilement.
Voilà. Ben surtout ils se concentrent dans la voiture. Et puis bien sûr dans une voiture généralement on est dans les bouchons, donc forcément on y reste beaucoup plus longtemps. Donc quand on y reste plus longtemps, du coup on est plus longtemps exposé aux polluants. Toujours la même problématique.
Donc, ce que j'en comprends c'est que rouler plus ou moins vite, ça change
rien.
Pas grand chose, mais c'est le fait de rester longtemps en fait qui va changer quelque chose.
Exactement.
C'est le temps d'exposition qui est
C'est le temps d'exposition qui compte. Tout à fait. Et donc vous allez me dire, et les transports en commun, eux, ça reste peut-être une solution. Et pas vraiment. Alors le tramway et le bus procurent quand même un mieux parce que par rapport à la voiture, on est surélevé. Donc du coup, on est quand même plus haut, on bouffe un peu moins de polluants. Mais malgré tout, c'est pas top.
Et puis il y a les voisins.
Et oui, bon, ça c'est pas bien grave.
Les voisins quoi ?
Oui,
les voisins de bus.
Ah, tu veux dire qu'ils polluent ton espace vital en fait, c'est ça ?
Voilà,
mais parce que t'aimes pas les gens.
Voilà, non, mais ça rentre pas en ligne de compte. On parle pas de ça. Mais
si, pour moi ça rentre en ligne de compte.
Non,
même en dehors des pics de pollution.
Moi je te parle de pollution, je te parle pas des gens dans le bus. Après, on peut aussi traiter autre chose, c'est le métro. Et alors là, le métro. C'est le cauchemar. C'est le cauchemar parce qu'en fait, on a dit que les polluants étaient lourds. Le métro, c'est dans des souterrains. Les souterrains, ils sont au niveau du sol. Donc, les polluants, c'est là qu'ils se concentrent le plus. Et d'ailleurs, même en temps normal...
Et attends, faut que les polluants, ils rentrent dans les petits couloirs du métro ? Comment ça se passe ?
Bah oui, tout à fait. Ils rentrent par les petits couloirs du métro et ils vont s'accumuler.
Et ils ont validé leur ticket ?
Ouais, tiens.
Il me semble, je sais pas si c'est le cas à Lyon, mais il y a certains métros où il y a une espèce d'aération.
C'est dans tous les métros, ouais.
Enfin, non, mais il y a carrément un trou dans le toit, quoi. Pas de la rame, mais dans la station ou dans le couloir, précisément.
Ouais.
Où est-ce que j'ai vu ça ? Enfin, bon, bref, par exemple, à Paris, ils ont du métro aérien aussi.
Aussi, voilà.
Donc là, c'est
ça peut régler le problème. Mais si tu veux, si tu regardes dans les métros lyonnais.
Sur l'ensemble des lignes.
Tu verras qu'il y a des petits aérateurs en haut de du tunnel en fait. Des aérateurs qui conduisent l'air qui.
Moi je pensais carrément un tunnel avec une espèce de fente en haut quoi. Ouais.
Ah.
Je sais pas. T'as des
stations Gorge de Loup.
À moitié ouverte en fait.
À moitié ouverte exactement. Mais dans tous les cas tu as des extracteurs d'air pour justement essayer de régler ce problème. Voilà. Donc bilan, la pollution c'est un problème qui est assez inextricable. Il n'y a aucune solution radicale qui a été trouvée. Le vélo, lui, c'est une alternative qui est la plus intéressante car ça permet d'isoler le cycliste des polluants et en proposant un moyen de limiter la production des polluants. C'est le seul qui le propose.
Marche à pied aussi, non ?
La marche à pied, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, je parle du vélo parce que là, c'est la question qui nous occupe, mais la marche à pied, combat, hein. On est bien d'accord.
Marche à pied, trottinette...
Voilà, patin, roller, skateboard, ce que tu veux.
Mais le vélo a l'avantage d'être le moyen de transport à propulsion humaine qui a le meilleur rendement.
Le meilleur rendement, c'est ça. Ça, on peut pas le retirer. Bon, voilà.
Bon, disons que c'est vrai que si t'arrives à faire du roller ou du skate, a priori, tu devrais être capable physiquement de faire du vélo.
Donc,
genre,
en fait,
t'as les jambes...
Dans tous les cas, tu vas user moins d'énergie pour faire le même déplacement. C'était mon prédécesseur à la présidence de la ville à vélo qui avait généralement l'habitude de dire quand les gens disaient « Ah ouais, mais vous vous rendez compte, les voitures sont dangereuses par rapport au vélo. » Il disait « Mais regardez, si vous prenez un vélo, ça fait une voiture en moins. » Mais pour la pollution, c'est la même chose. Les gens disent « Ah ouais, mais je vais pas prendre le vélo parce qu'il y a de la pollution. » prenez un vélo parce que justement, ça fera une voiture qui pollue en moins.
C'est le full à poule, quoi.
C'est l'œuf ou la poule, c'est exactement ça. Donc voilà, je réponds un petit peu à la question. J'avoue que j'ai répondu à cette chronique en pensant à Walter, à Walter Proof, parce que...
Ce matin, quand je parlais d'aller me faire une balade à vélo, il disait que c'était la bonne occasion pour se bouffer plein de pollution.
Voilà, donc du coup, je lui ai dit, Walter, tu tombes pile poil, j'en parle ce soir dans le cyclocast. Donc voilà, Walter, tu as la réponse, tu sais qu'à vélo, non, on n'est pas plus exposé à la pollution, en fait, on est même ceux qui sont exposés le moins. En conclusion de la conclusion, juste, j'ai un graphique qui vient de je ne sais plus quel journal. Je te le ferai passer, Grincheux, et je te demanderai de le mettre en lien
dans le billet,
où justement il y a les courbes de pollution assimilées par les différents usagers des différents modes de transport, pour prouver que ce que je dis, c'est pas juste des mots lancés en l'air, et que les études ont réellement été faites. Voilà. Il me semble que c'est une étude qui a été publiée dans Le Monde. Je te ferai passer ça.
Oui. Bon, du coup, tu vas nous donner les sources.
Voilà, je vous donnerai les sources. Voilà.
Eh bien, merci.
Merci beaucoup.
Mais de rien. Merci de m'avoir écouté. Bye.
Et c'est ainsi que s'achève ce 11e épisode de Cyclocast, le podcast du vélo au quotidien.
Et que l'on attaque notre deuxième année.
C'est vrai.
C'est vrai, ça fait un an qu'on raconte nos petits trucs, nos petites préoccupations autour du vélo, dans nos micros magnifiques, colorés.
Oui,
voilà.
Qu'est-ce qu'on doit dire ? On doit dire qu'on a un site web.
Toujours.
Cyclocast.fr, où vous retrouvez un billet par épisode, avec le MP3 que vous pouvez écouter sur place ou le télécharger.
Ouais, pour l'écouter sur place, il faudrait que j'arrive à retravailler un peu le player qui est tout moche, mais bon. C'est...
Les liens avec les sources et les liens des produits qu'on cite, etc.
On nous retrouve aussi sur iTunes.
Attends, j'ai pas fini. Le répondeur sur le site.
Bien sûr, le répondeur.
J'en ai parlé au cours de l'émission, mais il est utilisable avec un microphone de votre ordinateur ou avec votre téléphone portable. On a testé pour vous.
Si vous n'avez pas de micro ni de téléphone portable, vous pouvez nous contacter par le biais de nos adresses mail.
Oui.
Donc, il y a mogor@cyclocast.fr,
oui.
grincheux@cyclocast.fr, proculus@cyclocast.fr et de manière générale, cast@cyclocast.fr.
Comme ça, on et puis, il y a nos adresses Twitter.
Exactement.
Donc, proculus. @mogor. At Grincheux et at Cyclocast.
Voilà, pas de piège.
Et puis la page Facebook.
Pas de piège, et on a aussi une page Facebook. Alors la page Facebook en fait reprend tout ce qu'on poste sur Twitter, je pense.
Oui.
Je pense que c'est ça le truc. Alors,
oui, voilà. tout ce qu'on met sur Twitter passe sur Facebook.
Donc selon votre média de prédilection, abonnez-vous. Et on est également sur iTunes, si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait.
Grâce à Grincheux qui s'est occupé de ça. Ce fut long, ce fut dur, mais c'est bon.
On y est arrivé. Et puis je crois que là on a fait le tour de d'où on peut nous retrouver.
Tout voilà. À fait.
Et bien, il ne reste plus qu'à vous dire au mois prochain.
Au mois prochain.
À la prochaine.
Bonne
au revoir.
Soirée. À bientôt.
À bientôt. It's hard to miss the